Chapitre 21, versets 1 à 14. Ritzpa. Le royaume d'Israël, restauré de nouveau, après les épreuves terribles et méritées qui l'ont assailli, on aurait pu croire qu'une ère de paisible prospérité allait s'ouvrir pour lui. Au contraire, il est visité d'une nouvelle plaie. Je ne doute pas que cette famine n'ait pu avoir lieu à un autre moment du règne, car il est dit « Il y eut, du temps de David, une famine. » Verset 1. Mais ce n'est jamais sans intention que l'Esprit de Dieu intervertit l'ordre du récit, comme nous le voyons à la fin des Juges et dans 100 endroits des Évangiles. Le gouvernement de Dieu ne peut ignorer le mal, quel qu'il soit, et le juge avec d'autant plus de sévérité que l'assemblée est relativement dans un bon état. Bien des années s'étaient écoulées depuis l'acte sanguinaire de Saül. L'histoire de ce roi n'en fait pas mention. Le peuple l'a peut-être oublié. Peut-être aussi est-il inconnu à David. Mais Dieu ne l'a pas oublié, et ce fait est resté devant ses yeux. L'assemblée d'Israël n'avait pas trempé dans le crime. Saül, qui l'avait commis, était mort depuis longtemps. Pourquoi donc le remettre en mémoire? C'est qu'il s'agit ici d'un principe de toute importance dans les voies de Dieu, soit envers son ancien peuple, soit envers l'Église. Le peuple est solidaire de l'acte de Saül parce qu'il a eu lieu sur le terrain de l'Assemblée d'Israël. La violation des engagements et du serment fait au nom de l'Éternel rendait la congrégation coupable du péché de son conducteur. Josué 9, verset 18. Et les fils d'Israël ne les frappèrent point, car les princes de l'assemblée s'étaient obligés envers eux par serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Des générations s'étaient succédées depuis, elles pouvaient invoquer leur ignorance. Le crime reste, et Dieu, en temps voulu, le remet en mémoire. Des faits pareils ne se passent-ils pas de nos jours et ne parlent-ils pas aux consciences des saints? Peu importe le temps écoulé. L'assemblée est solidaire de l'iniquité qu'elle a laissé commettre et reste souillée par un acte contre lequel elle n'a pas protesté. Le lecteur connaît l'histoire des Gabaonites. On peut la lire au 9e chapitre de Josué. Les Amoréens s'étaient fait recevoir par ruse dans la congrégation d'Israël afin d'échapper au jugement de leur peuple. Dieu considérait comme lié ce que l'assemblée avait lié. Elle ne pouvait révoquer son serment. Sans doute en plaçant les Gabaonites dans une position d'esclavage vis-à-vis du peuple, la grâce de Dieu avait affranchi Israël des suites d'un faux pas fait à la légère et par ignorance, mais la conséquence d'une décision selon la chair demeurait en permanence. Saül en juge autrement, car un homme dans la chair fait toujours exactement le contraire de ce que l'Esprit aurait enseigné. Et cependant Saül était plein de zèle pour les fils d'Israël et de Juda, verset 2, mais d'un zèle qui s'alliait, hélas, fort bien avec la haine contre loin de l'Éternel. Saul de Tarse était aussi rempli d'un zèle qui faisait de lui le persécuteur de Christ dans son assemblée. De nos jours encore, on peut être zélé pour sa nation, pour son Église, sans que Dieu y ait aucune part. Ce Saül qui, pour son propre serment téméraire, aurait sacrifié son propre fils, libérateur d'Israël, en 1 Samuel 14, versets 24 et 44, ce même Saül méprise le serment par lequel Josué et les princes d'Israël s'étaient engagés au nom de l'Éternel vis-à-vis des Gabaonites. La famine sévit 3 années de suite. Les coups se répètent sur l'assemblée de Dieu. La conscience de David est amenée, par l'épreuve, à désirer en connaître la cause. David rechercha la face de l'Éternel. C'était sa seule ressource, et Dieu lui répondit immédiatement. C'est à cause de Saül et de sa maison de sang, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Verset 1. Sa maison de sang. Quand le fils de Guéra, poursuivant David, humilié, lui criait « Sors, sors, homme de sang !» L'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, car tu es un homme de sang. Dieu enregistrait ces injures d'un homme de la maison de Saül, mais maintenant le temps est venu d'exprimer sa pensée sur cet outrage. Dieu qualifie la maison de Saül de sanguinaire et justifie celle de David. David, après avoir consulté l'Éternel sur la cause du châtiment, aurait dû sans doute continuer à le faire sur la manière de rendre justice aux Gabaonites. Au lieu de cela, il consulte ces derniers qui demandent 7 hommes de la famille de Saül pour les pendre devant l'Éternel à Giba. Verset 6. David y consent, car, quoi qu'il en fût de sa faiblesse, le jugement était nécessaire. Mephibosheth en est préservé. David, qui l'avait, en une autre occasion, traité avec une apparence de dureté, montre ici qu'il le porte toujours sur son cœur. Ce n'est pas un David qui oublie ses serments. N'a-t-il pas juré à Jonathan « L'Éternel sera entre moi et toi, et entre ma semence et ta semence, à toujours » 1 Samuel 20, verset 42. Les 2 fils de Rizpa et les 5 fils de Michal ou Merab, fille de Saül, sont livrés aux Gabaonites. Le procédé de ces derniers, l'on ne peut s'étonner de leur indifférence aux prescriptions de la loi, n'est pas d'accord avec l'ordonnance du Deutéronome, et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'il ait été mis à mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras sans faute le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu, et tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Deutéronome 21, versets 22 et 23. La moisson des orges pouvait être une excuse pour désobéir ainsi aux injonctions de l'Écriture, mais des excuses ne justifient pas la désobéissance. Il est probable cependant, d'après le récit, qu'ils furent enlevés du gibet pour rester exposés sur le rocher au lieu de recevoir leur sépulture. Rizpa, fille d'Aïa, mère de 2 d'entre eux, déjà mentionnée auparavant au sujet du différend entre Abner et Ish-Bosheth, au chapitre 3, verset 7, Rizpa accomplit un acte de piété qui mérite que son nom vive dans la mémoire des croyants. Elle se constitue la gardienne des 7 cadavres. Le motif de son dévouement n'est pas que ses 2 fils sont parmi les condamnés, car elle veille sur les 5 autres aussi bien que sur les siens. La postérité de celui qui avait été l'élu de l'Éternel, verset 6, lui tient au cœur. Elle montre sa piété envers la maison de son époux et de son maître. De plus, Rizpa est une femme de foi. Elle garde leur corps de toute profanation et les veille, n'ayant pour remplir sa pénible tâche que le sac de deuil qu'elle étend sous elle. Elle allie ainsi son deuil avec sa piété vigilante envers les morts. Il faut que leur sépulture, au moins, soit honorée. Elle ne veut pas les laisser de jour en pâture aux oiseaux des cieux, de nuit aux bêtes des champs, comme s'ils étaient criminels et réprouvés. C'est ainsi qu'agissaient les nations envers le peuple de Dieu. Psaume 79, verset 2. Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux des cieux, la chair de tes saints aux bêtes de la terre. Mais ce n'est pas ainsi que l'Éternel a commandé et qu'on agit en Israël. La foi de Rizpa est récompensée. Ce qu'elle avait fait fut rapporté à David. L'acte de cette femme est digne d'être enregistré dans le cœur du roi. Au milieu de son deuil, quelle joie! Elle a trouvé un cœur qui la comprend et qui trouve son bonheur à la récompenser. Une grâce qui répond à ses désirs. Les os des descendants de Saül sont réunis à ceux de leur père dans le sépulcre de Kis. Cette femme était dans le chemin de Dieu et a obtenu la réponse que réclamait sa foi. Désormais, l'Éternel peut être propice au pays, car le jugement est exécuté. Mais la grâce aussi a eu son cours, car, dans ses voies, Dieu ne s'arrête pas au jugement, et ce dernier prépare le chemin au triomphe de la grâce. Versets 15 à 22. Les fils du géant. La fin de l'histoire de David a le caractère de son commencement. Goliath semble reprendre vie. Il en fut de même pour le Seigneur après la tentation au désert. Satan le laissa pour un temps et réapparut en Gethsémané, cherchant à l'effrayer pour lui faire abandonner son œuvre. Ses efforts furent vains et, dans le dernier cas comme dans le premier, la dépendance de Jésus remporta la victoire. Qu'après la victoire de Christ, les enfants du géant s'attaquent à ses rachetés, pensant en avoir plus facilement raison que de leur maître, leur sort sera le même. Ils sortiront vaincus de la lutte. Ce combat se répète 4 fois avec les Philistins. C'est d'entre ces ennemis du dedans que sortent les enfants du géant, ces loups dévorants, qui cherchent à ravir le troupeau en effrayant ses conducteurs. La première fois, David est personnellement en jeu. Versets 15 à 17. Il était descendu avec ses serviteurs, ne tenant compte ni de son âge ni de ses forces. David était fatigué. Verset 15. Jishbi Benob, qui était des enfants du géant, redoutable par son arme, le poids de sa lance était de 300 cycles d'airain, invulnérable à cause de l'armure neuve dont il était saint, veut profiter de l'apparente faiblesse du roi. Mais Abishai, fils de Tseruya, le secourut et frappa le Philistin et le tua. Verset 17. C'est ainsi que ce serviteur de David est mis à l'épreuve. Il n'abandonne pas son maître dans le danger et a l'honneur d'être le sauveur de David. N'en est-il pas ainsi de nous? Le Seigneur ayant combattu pour nous et nous ayant délivrés, n'avons-nous pas dans un sens le devoir de le secourir? Son nom, sa personne, sa gloire sont menacés par les agents de l'ennemi. Il s'attaque à notre David pour anéantir tout souvenir de lui, et il sait qu'il a peu de temps, car déjà l'aube de son règne glorieux est sur le point de se lever dans la personne de Salomon. L'ennemi réussira-t-il? Nous sommes responsables de sa victoire ou de sa défaite. À nous maintenant, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, à frapper le Fils du géant, à vaincre ceux qui s'attaquent à Christ, à garder son nom et sa parole intactes devant l'ennemi qui voudrait les anéantir. Et même si nous n'étions pas des hommes forts de David, ne devrions-nous pas encore lui jurer, comme le firent tous ses serviteurs, « Tu ne sortiras plus avec nous pour la guerre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Verset 17. La foi de tous est ainsi mise à l'épreuve. Ils sentent qu'ils ont à combattre eux-mêmes, chacun à son rang, afin que la lampe du peuple de Dieu ne soit pas éteinte et continue à briller de tout son éclat. Sans doute notre David n'est jamais fatigué comme celui de cette histoire. Le Dieu d'éternité, l'Éternel, Créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas. Ésaïe 40, verset 28. Mais pour éprouver et fortifier notre foi, pour encourager nos cœurs dans la lutte et les réjouir par la victoire et la récompense, il aime à se placer vis-à-vis des siens dans une position où lui, le vainqueur de Satan, semble avoir besoin de notre secours. Quel privilège de combattre pour lui! Le jour est sérieux. Christ est attaqué de toutes parts. L'effort semble formidable et dépasse de beaucoup nos faibles ressources. Ceux qui devraient être avec lui et défendre l'intégrité de sa parole et de sa personne font, hélas, la plupart du temps, cause commune avec les fils du géant. Ne nous en mettons pas en peine. Que notre David soit absent, comme dans les 2 combats de Gob, versets 18 et 19, il n'importe, le même esprit qui l'animait est encore avec nous. Peut-être serons-nous seuls, comme Sibbekaï, le Hushatite, seul contre Saph, car le géant frappé renaît toujours sous une autre forme. Qu'importe encore, peut-être, circonstance décourageante, le lieu où il a été vaincu, Gob, nous présentera une seconde fois le même terrain de bataille. Qu'importe s'il nous faut rentrer dans les mêmes traces, alors que nous croyons avoir fini avec une lutte déloyale. Sur ce terrain, voici Goliath, l'ancien ennemi qui reparaît. Il y eut encore un combat à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaharé Orégim, le Bethléémite, frappa Goliath, le Guitien, et le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands. Verset 19. Goliath n'a donc pas été vaincu par David ? Ne t'en inquiète pas, ne t'en effraie pas, Elkanan, héros de la grâce de Dieu. Note 1. Elkanan signifie la grâce de Dieu. Ce Goliath, le Guitien, est un faux Goliath, se parant d'un nom trompeur, d'un nom de mensonge. Il n'est que l'acmi, son frère. Voir 1 Chronique 20, verset 5. Mais il a la même lance, comme l'ensouple des tisserands. Voir 1 Samuel 17, verset 7. Demande-lui, Elkanan, où est son épée. Elle est restée entre les mains de David et y restera toujours. La victoire, Elkanan, t'est assurée. Il n'est pas même besoin pour elle d'une pierre de fronde que certes tu ne saurais manier comme ton roi. Ce qui le vaincra, c'est la confiance, c'est l'humble dépendance que tu as vue en David. Oui, quoi qu'il en soit, la victoire est à toi. Elle est à nous, parce qu'elle est à lui. Le dernier ennemi, monstrueux, formidable, n'est pas nommé, mais lui aussi était né au géant. Homme de haute stature qui avait 6 doigts aux mains et 6 orteils aux pieds, en tout 24, versets 20 à 22. Comme jadis Goliath, il outrage Israël. Voir 1 Samuel 17, verset 10. En l'absence de Christ, nous avons à combattre aussi bien pour lui que pour son peuple. Outrager l'un, c'est outrager l'autre. Nous avons des frères captifs de l'ennemi, comme Lot, tristement alliés comme lui au monde, dont il s'agit de les sauver avec crainte, les arrachant hors du feu. Jude 23. Mettons-nous à la brèche comme Jonathan, fils de Shimha. Montrons comme lui que nous portons par grâce le nom de frère de David. Verset 21. Ayons à cœur comme lui les intérêts de son peuple. Qu'il est pénible de s'entendre dire « De quoi vous mêlez-vous ? Nous sommes bien où nous sommes. Vous nous faites la guerre. » Car ils s'identifient avec l'ennemi qui les asservit et préfèrent leur esclavage à la liberté qui leur est offerte. Qu'importe encore ? Combattons pour eux. Frappons cette puissance formidable qui outrage le peuple de Dieu. Encore un coup, ce sera le dernier. Plus qu'une victoire. Et l'Éternel nous aura délivrés de la main de tous nos ennemis, et nous pourrons lui adresser en paix, comme David, les paroles de notre cantique.